première.
Oui.
Oui,
oui. 22h, 23h, par oui dire,
Pascal Tison.
Dis-moi, par oui dire.
Par oui dire.
Charleroi, BBS 22. Jusqu'au 1er septembre. Migration, Écomusée Bois du Luc, jusqu'au 31 octobre. Une exposition qui surplombe et qui peut-être se mixe quelque peu avec celle de Xavier Marie. Y a-t-il une accointance entre les deux artistes?
Alors ça, c'est vrai que c'est assez incroyable. Pas du tout. Ce sont, pour moi en tout cas, des artistes complètement différents dans leur vie, dans leur travail, même dans leur manière de voir les choses. Pierre-Olivier Rollin a choisi d'exposer Xavier Marie, j'ai choisi d'exposer Samuel Katibi. Vraiment, on a fait ça sans discussion, sans en parler avant nous, en disant « Ah, on va mettre ces deux artistes ensemble parce que vraiment, ça irait bien. » Vraiment pas. Et puis, en fait, petit à petit, il y a un truc étrange qui s'est passé. Donc, vous passez d'une salle à l'autre de l'exposition de Sanam Katibi, vous passez dans la coursive, et de là, par le balcon, vous voyez le film de Xavier Marie qui se déroule, en fait, dans un village de sculpteurs de pierre en Malaisie ou au Cambodge. Et ça se passe dans cette jungle, avec ce son, cette sculpture sur laquelle sont posées des bougies, des objets. En fait, une offrande, un sacrifice. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe avec le travail de Sanam Katibi. Et ce n'était absolument pas calculé. Et je trouve ça magnifique.
Eh bien, Dorothée Duvivier, vous venez de dire là le pré-générique de l'émission. À Charleroi, au BPS 22, jusqu'au 1er septembre, Xavier Marie, MX Temple et Sanam Katibi, Extra View de ta salive qui mord. Avec Pierre-Olivier Rollin, Dorothée Duvivier, Rodolphe Chansen, Xavier Marie, Sanam Katibi. À l'Écomusée de Bois du Luc à la Louvière, dans le cadre de la Biennale Art Tour, intitulée « D'un temps à l'autre », Migration jusqu'au 31 octobre, avec Vanessa de Bruyne. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, au cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, tententententum, stélie.
Le monde invisible.
À l'époque, on avait organisé avec Charles-Olivier Goy la première exposition de Xavier Marie au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, dans le petit programme A4 qu'on développait. Et j'ai proposé à Xavier, une fois que le musée serait ouvert, de faire une expo solo avec lui.
Pierre-Olivier Rollin.
Et à ce moment-là, il m'a parlé de son projet de travailler sur une sorte de sculpture qui évoquait les temples khmers, puisqu'il venait d'aller pour la première fois au Cambodge et qu'il avait été fasciné en fait par ces temples d'une civilisation qui avait disparu, dont il restait des traces architecturales et sculpturales, et qui avait été envahie par la végétation et par les animaux, puisque en Inde, comme en tout en Asie, les premiers habitants des temples, ce sont les singes qui ont colonisé les temples. Kipling n'a rien inventé dans le livre de la jungle, en fait, c'est comme ça. Son idée est restée, il a voyagé plusieurs fois. Xavier Marie, c'est quand même un artiste qui s'inspire de choses très différentes. Il a une très bonne connaissance de l'histoire de l'art, puisqu'il y a beaucoup de références au grand courant du XXe siècle, comme l'assemblage, évidemment, le ready-made, mais aussi l'abstraction, le minimalisme américain. Il s'inspire aussi bien de sites archéologiques que de films d'aventure, d'heroic fantasy ou de jeux vidéo, de tuning automobile ou de rave party. Et il produit une sorte de grand syncrétisme esthétique, comme ça, qui est une sorte de synthèse entre des influences formelles très diverses. Et moi, j'ai coutume de dire que c'est un artiste qui est peut-être emblématique du XXIe siècle, dans le sens où son langage est constitué d'éléments reconnaissables partout dans le monde, mais utilisés de manière différente et qui remixe les formes. Nicolas Bourriaud parle de sémionautes pour parler des artistes contemporains. Je crois que Xavier Marie, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va reprendre des signes, qui va reprendre des formes et qui va les redéployer dans des contextes différents et dans un langage plastique qui oscille toujours entre brutalité du ready-made et soin fini apporté à certains détails. Pour le taquiner, je dis toujours qu'il a un côté trash de luxe, dans le sens où il y a effectivement une brutalité dans la matière choisie, en l'occurrence ici les vieux pneus, et en même temps quelque chose de très fini dans l'échafaudage en polymiroir et avec des couplings, avec chaque fois des boulons dorés.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Il m'a toujours dit, je rêve de faire ce temple en pneus, on va essayer. Et puis, c'est quand même un gros challenge parce que trouver des pneus, c'est pas facile. Les découper, les assembler, c'est une autre paire de manches. Et ça demande quand même énormément de manutention. Mais le BPS 22 est un musée qui fait ce que les autres ne veulent pas ou ne savent pas faire. Tant qu'à aider un artiste de la communauté française, autant le faire correctement.
MX Temple, oui, donc c'est mes initiales inversées, hein. Clairement, il n'y a pas de secret.
Mais Temple,
comme vous l'avez vu clairement, c'est un peu la pièce centrale de l'exposition qui est un temple. Donc c'est un temple inspiré d'un autre temple qui se situe au Cambodge, qui est le Koker, qui a une sorte de temple à étage, comme ça, de temple montagne, un peu similaire à ceux qu'on trouve dans une autre partie de la planète, chez les Mayas.
Vous aviez réfléchi au projet depuis 10 ans, ça fait quand même presque un an qu'on cherche les pneus. Xavier a mis plus d'un mois pour couper les pneus et pour monter, ça va faire 15 jours où on travaille non-stop, quoi. On n'a pas pris congé, on a travaillé tout le temps pour tout monter, quoi. Laure, est-ce que tu peux rappeler Xavier à ses devoirs d'artiste exposant ?
Mais ces pneus, ce sont des pneus d'engin.
De génie civil, en fait.
Et ces temples, vous les avez découverts lors d'un voyage ?
Donc, je les ai d'abord découverts dans des livres. Et puis quand j'ai été invité pour cette exposition, donc Pierre-Olivier m'a invité il y a une dizaine d'années à faire un jour une exposition à BPS 22. L'idée du MX Temple m'est venue directement. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi assez vite. Et c'est suite à ça que j'ai fait mon premier voyage au Cambodge. Donc ça devait être en 2005, je crois, ou quelque chose, ou 2008. C'est là que j'ai visité les temples d'Angkor, et puis le temple du Koker, le Bang Melia et le temple du Koker qui se situent donc à proximité du site d'Angkor et d'Angkor Wat.
À Charleroi, au BPS 22... Jusqu'au 1er septembre, Xavier Marie, MX Temple et Salam Katibi, Extra View de Tassalif qui mord. Avec Pierre-Olivier Rollin, Dorothée Duvivier, Rodolphe Chansen, Xavier Marie, Salam Katibi. Et ces temples sont dans quel état, tels que vous les avez vus, Xavier Marie ?
C'est compliqué parce que Angkor Wat, bien sûr, et encore, l'UNESCO, c'est un peu la disneylisation d'Angkor. L'UNESCO recompose l'entièreté des temples, mais le Bang Melia et le Koker, qui sont pour moi les deux plus beaux temples du Cambodge, sont des temples qui sont laissés dans un état extrêmement brut, hein, parce que c'est une civilisation qui a été perdue pendant 200 ans. D'où le deuxième volet de l'exposition, le film MX Culture. Le film, c'est un peu comme le revers du temple, puisque, bon, c'est clair, mon travail, je crois qu'il y a eu des références assez fortes à une époque industrielle et à des matériaux qui sont ceux de l'époque industrielle. Et ben, le film, c'est un peu l'opposé, puisque c'est une forme d'aujourd'hui, donc mes initiales, MX, qui a été refaite dans un village de sculpteurs qui s'appelle Kampong Tom, qui est le village où ils refont d'ailleurs les sculptures pour les temples d'Angkor et de nombreux autres temples de par le Cambodge. Des artisans du village de sculpteurs de Kampong Tom qui ont refait mes initiales en pierre, dans cette pierre de Phnom Kulen, et on l'a transporté en radeau dans un endroit secret de la jungle, dans les montagnes du Cardamome, au Cambodge aussi, dans la jungle la plus sauvage d'Asie.
Et pourquoi secret ?
Les temples d'Angkor, ils ont été perdus pendant 200 ans au milieu de la jungle, et l'idée c'était de faire quelque chose qui soit un peu de cet ordre-là, donc c'est-à-dire de faire une sculpture qui soit non pas faite pour le spectacle ou pour le spectateur, mais qui existe juste pour elle-même, donc qui puisse être perdue comme ça, hors de vue de tout spectateur, et exister pour elle-même au milieu de la jungle. Donc pour ça, il faut que l'endroit soit secret.
On est dans une catégorie de pneus extrêmement lourds qui coûtent très très cher à l'achat. Et donc on a travaillé avec des pneus usagés, ce qu'on appelle en fait des carcasses, qui sont en fait tellement abîmés qu'ils ne peuvent plus être restaurés et qui ne serviront plus que pour le recyclage. Et donc là, ils sont récupérés avant de trouver des solutions de recyclage. Et peut-être même qu'on peut dire que le recyclage, c'est la sculpture.
Et ce qu'on entend, c'est un engin.
C'est un engin élévateur, puisqu'on travaille à des hauteurs de plus de 5. Le temple, il est à 5,80 m. Pour pouvoir installer tous les dispositifs, on a besoin de solides élévateurs, parce qu'on est quand même en tout une trentaine de tonnes, et on est en hauteur, donc le personnel monte avec des nacelles.
Revenons aux sculptures, revenons aux matériaux. Pierre-Olivier Rollin me parle de pneus d'engins de génie civil.
Oui, donc c'est des pneus qu'on appelle « off the road », comme on le dit en anglais. Donc c'est des pneus qui sont faits pour les carrières, les très grosses carrières telles qu'on en trouve en Afrique ou aux États-Unis. On en trouve un peu par chez nous, mais beaucoup moins. C'est des pneus qui ont des diamètres vraiment immenses. Donc le pneu principal, c'est à 45-00R57, donc c'est un pneu qui fait 4,20 m de diamètre au total, qui fait plus ou moins 4 tonnes. Et donc les étages successifs du temple, qui sont censés être de plus en plus petits, dans les civilisations mayas ou les civilisations khmères, sont ici des modèles de pneus de génie civil, toujours, mais de plus en plus petits. On a un 40-00R57, et on termine par un R25, qui fait déjà 2 mètres de diamètre. Donc les proportions des pneus, ces chiffres, dimensions industrielles, sont un peu comme le nombre d'or de notre époque. Ils dessinent la forme du temple et ses proportions.
Et vous dites... Xavier Marie, des pneus qui portent des engins qui roulent dans des carrières, donc on est aussi avec du matériau qui sert aux sculpteurs.
Je ne fais pas un mur avec d'un côté une époque industrielle et de l'autre celle de la sculpture traditionnelle. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est d'aller par-delà cette frontière et de voir comment, en 1000 ans d'écart, finalement, il y a des archétypes qui traversent aussi bien une époque qui est celle de l'époque industrielle et qu'on retrouve de façon tout à fait similaire dans un héritage de 1000 ans d'âge.
Quant au... TL, aux lampes, aux néons.
Il y a 3 pièces en tout qui viennent d'une exposition ancienne qu'on a choisie avec beaucoup de précautions avec le curateur Pierre-Olivier. C'est des lampes de tunnel en fait. J'ai toujours eu une fascination pour les autoroutes, ça je pense que ceux qui connaissent un peu mon travail le savent. Et ceux qui ne le savent pas pourront encore le découvrir avec cette exposition. Les lampes dans les tunnels d'autoroute, pour moi, ça a toujours été une forme prédominante dans mon imaginaire. C'est des sortes, comme les lampes d'autoroute que j'ai utilisées dans une autre pièce qui s'appelle Aguirretor, que j'ai eu la chance de montrer au Wills, d'ailleurs, en 2008, je crois.
C'est une organisation assez lourde, Je veux dire, c'est quand même beaucoup de travail et d'éléments. Oui, c'est une grosse manutention, c'est des projets qui demandent une mobilisation de toute l'équipe qui travaille non-stop pendant plusieurs jours.
Mais le sens du pneu usagé d'engin de génie civil, c'est quoi? C'est un ready-made qui indique quoi?
Ben, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a un côté effectivement matériau industriel comme l'artiste en raffole. Il y a un côté globalisé dans le sens que ce type de pneus, on le retrouve partout dans le monde et que ce sont quelques grandes multinationales qui les envoient dans le monde entier. Donc ça a une signification aussi bien en Asie, en Afrique, qu'en Amérique latine, qu'en Europe ou qu'en Russie. Les temples, en fait, sont organisés toujours sur en fait 5 éléments, puisque c'est les 5 faces du mont Meru, du lieu sacré. Et donc il y a toujours un élément central, 4 éléments autour, plus petits. Ces éléments autour peuvent être encore accompagnés de 4 éléments et devenir l'élément central et ainsi de suite jusqu'au fractal. On a toujours un escalier qui permet de monter et donc on a à la fois la géométrie de la croix puisque c'est orienté nord-sud, est-ouest. Mais par contre tous ces temples sont courbes et le pneu permet de donner ce mouvement courbe à partir d'un matériau industriel alors que la plus grande partie des matériaux industriels sont souvent droits. Et ça permet de construire ce mouvement de courbe très présent dans l'architecture khmère traditionnelle. Évidemment, ça reste du matériau brut. manière de faire de la sculpture. Et là, on se met peut-être dans la tradition de l'assemblage. Alors, c'est pas tout à fait un ready-made parce qu'on les a coupés, donc on parlerait d'un ready-made assisté.
Les lampes d'autoroute ou les lampes de tunnel, ce sont des sortes de lignes qui semblent avoir ni début ni fin, comme ça, qui sont des sortes de lignes imaginaires qui m'ont toujours fasciné, avec lesquelles j'ai toujours eu envie de travailler. La première pièce avec Guérotor, avec les lampes d'autoroute, c'était des lampes qui étaient de part et d'autre d'un poteau dans la salle Victor Horta, puisque ça avait été montré aux Beaux-Arts à l'époque aussi.
Alors Pierre-Olivier Rollin, vous parliez de lumière servant à éclairer les autoroutes.
Oui, en fait, ça, c'est la pièce qui se trouve là-bas, TNL. Xavier Marie travaille avec des matériaux industriels et tout ce qui a été utilisé sur les réseaux autoroutiers l'a toujours intéressé. On a TNL qui est construit en fait avec des lumières qui servent à éclairer les tunnels d'autoroute. Et donc ce sont des lampes qu'il a constituées dans une sorte de construction formelle qui rappelle évidemment Frank Stella, ses grands tableaux, mais aussi une sorte de soleil noir puisque la question de la lumière est aussi importante. On la voit aussi bien dans le film que dans les coiffes qui tournent au-dessus des principales sculptures. Et de l'autre côté, on a aussi une grande composition abstraite, et là qui est faite à partir de panneaux anti-bruit d'autoroute qui ont été traités. Et là, on voit évidemment, dans le choix qui a été fait de l'organisation des panneaux, une référence à l'abstraction américaine. Mais pour peu qu'on ait travaillé avec un ordonnancement des teintes différents, on pouvait aussi bien voir une référence au paysage qui évoquait alors le film qui est de l'autre côté, ou même les peintures de Sanan Katibi, puisqu'il y a une corrélation étroite qui s'établit entre les deux artistes.
En se répondant de part et d'autre, finalement, c'était une façon de reboucler, de refermer ces lignes infinies pour en faire une œuvre. Avec les lampes de tunnel, de nouveau, c'est la même chose. Ici, les lampes de tunnel qui vont de part et d'autre d'une ligne droite sont refermées sur eux-mêmes pour former un octogone. Et aussi une référence à Frank Stella, donc un grand artiste américain, qui avec les chapeaux de canvas, donc pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Frank Stella, un grand artiste américain qui a décidé que le contenu du tableau est défini par la forme du tableau lui-même, donc c'est une sorte de zigzag, une forme de tableau en zigzag qui est composé de zigzags intérieurs. Et ici c'est un peu la forme de l'autoroute et de l'époque industrielle qui définit la forme de l'œuvre.
Mais vous avez dit, Pierre-Olivier Rollin, soleil noir. Et moi, j'entends soleil noir de la mélancolie.
Oui, ça, c'est la version qu'on a donnée de Nerval. Mais la pièce, en fait, quand elle fonctionne, elle fait apparaître en son centre une sorte de masse noire, puisque le néon tourne autour et on joue sur cette opposition qu'il y a entre le jour et la nuit, qui est aussi un élément qui revient dans toute l'exposition, puisque le film est tourné au lever et au coucher du soleil. Et on voit ça dans les variations d'intensité. Dans le bâtiment, évidemment, puisque le BPS-22, c'est une verrière qui connaît toutes les variations lumineuses que peut connaître la journée. Et en même temps, dans l'emblème, le grand logo INNO qu'on voit apparaître là-bas et qui se retrouve dans le film. INNO, c'est la marque de camion asiatique qui appartient à Toyota, qui littéralement signifie « lever du soleil ». Et qui est un logo stylisé qui évoque outre le H de Inno, mais deux flèches qui vont à gauche et à droite et donc qui évoquent le mouvement du soleil. Et tant chez Sanan Katibi que chez Xavier Marie, on retrouve aussi cette idée du cycle solaire qui reste quand même le cycle cosmique et qui, même dans une société technologique comme la nôtre, reste la norme temporelle, celle qui définit le jour, la nuit et qui impose un ordonnancement régulier au monde.
Un Charleroi au BPS 22 jusqu'au 1er septembre. Xavier Marie, MX Temple et Sanam Katibi, Extra View de Ta salive qui mord. Avec Pierre-Olivier Rollin, Dorothée Duvivier, Rodolphe Janssen, Xavier Marie, Sanam Katibi.
C'est vrai que dans les grands tableaux, c'est souvent les femmes qui sont présentes. Il y a beaucoup d'animaux, il y a la nature. C'est vrai que l'homme est souvent absent, très peu présent, et quand il est présent, c'est peut-être sous la forme de l'animal, peut-être dans la nature. Mais dans les petits, il y a les hommes qui sortent, oui, ils sont là, plutôt dans des formes de guerriers. C'est les batailles, c'est la guerre, ils sont blessés.
Par les Amazones ?
Peut-être, certainement. Ça doit certainement arriver.
Les animaux, ce sont des êtres qui vous importent.
Oui, très fort, très très fort. Depuis toujours. J'ai une passion pour les animaux depuis que je suis petite. Et d'ailleurs, j'ai voulu faire ça. J'avais un faucon, j'ai travaillé chez un fauconnier, j'avais un hibou, j'étais dans des firmes en Afrique où j'ai travaillé avec des cheetahs, des lions, des babouins. C'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis petite. Oui, c'est présent et c'est certainement présent dans le travail.
Sous forme d'ailleurs de vitrine, hein.
Aussi, oui. Tout ça, c'est fait évidemment à l'inconscience, mais évidemment, quand on met tout ensemble, tout se suit, un fil conducteur, et depuis toujours. Donc, c'est quelque part, c'est normal. Mais c'est vrai qu'ils ont une importance aussi dans les œuvres, ils sont présents, mais c'est surtout la nature, en fait, finalement. Mon travail traite de l'animalité, de nos pulsions primaires, de l'état sauvage, de toutes ces pulsions différentes et contradictoires que nous avons tous en nous, surtout de toute l'ambiguïté que nous portons. C'est des sujets récurrents qui lient tout, que ce soit les installations, les tapisseries, les tableaux, les petits, les grands, la nature, les sculptures.
Et n'est-ce pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, qui est une recherche que vous menez à travers la représentation?
Je pense pas que c'est une recherche que je mène, je pense que c'est tout simplement, c'est là, on est tous des animaux finalement. On peut être bien éduqué, on peut ne pas l'être, mais quand on est face à des sentiments ou des événements ou toutes des choses primaires, nous redevenons animal quelque part. C'est comme ça que l'on survit, c'est comme ça que l'homme est dans les guerres, enfin voilà, c'est toujours là. Ça a toujours été là et ça sera toujours là. L'homme n'est pas gentil avec soi-même donc, et son environnement, donc c'est sûr que l'animal est menacé. Effectivement, on en parle partout. Oui.
Et que faire ?
Je pense qu'il faudra qu'on commence à bien traiter notre environnement déjà et commencer par les petits gestes. Et je pense que de plus en plus on en parle aujourd'hui et de plus en plus notre génération en tout cas en prend conscience. Et il faudrait que les politiques se suivent aussi et les actions aussi.
Petit geste.
Je traite des choses qui sont autour. Et la nudité, pourquoi la nudité? Tout simplement parce que je voulais ne pas avoir des symbolismes de la civilisation quelque part et que je trouvais que voilà, c'est notre état sauvage.
Un état sauvage, il y a encore des populations qui vivent comme ça,
oui.
Par le monde.
Oui.
Vous avez été les voir en
non,
Amérique latine?
Non. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans des tribus, pas ces tribus-là, non, j'aimerais bien. Quand je vis dans la nature, avec les animaux, enfin en Afrique, ce qui me touche le plus souvent, c'est à quel point, malgré le fait qu'on est dans des environnements très dangereux où on peut marcher et se faire attaquer par un guépard ou un léopard, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on sent à quel point, si on respecte, il y a un respect aussi de l'ordre de la nature. Je ne dis pas maintenant forcément que les choses dangereuses ne peuvent pas arriver, mais on se sent, moi je me suis sentie au contraire d'avoir peur, quelque part très 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 à l'aise et très en confiance par rapport à la nature et la loi de la nature en fait. Et ça m'a beaucoup apaisée. C'est un sentiment assez étonnant.
Quand vous êtes dans cette nature, que ressentez-vous qui vous apaise ?
La liberté.
Mais on retrouve par exemple une fascination pour le paysage naturel, et l'un comme l'autre font ce que j'appellerais des compressions spatiales et temporelles, puisque les peintures de Sanane Katibi évoquent une sorte de jardin paradisiaque tel qu'on pourrait le voir dans la peinture du Moyen-Âge, en traitant de mythes qui sont parfois très anciens, mais dans des techniques assez contemporaines. Et donc il y a cette espèce d'écrasement soudainement des lieux différents et des époques différentes se trouve condensé aussi bien dans les peintures de Sanane Katibi que dans les sculptures de Xavier Marie. Sculpture de Xavier Marie sur laquelle on ne peut pas monter, contrairement à ce que fait le galeriste de Sanane Katibi, Rodolphe Janssen.
Rodolphe Janssen, qui est-elle à vos yeux et pourquoi vous la défendez ?
J'ai découvert le travail de Sanane Katibi en 2014. Elle exposait un espace qui s'appelle Island, qui est un espace organisé par des artistes. Elle était toute seule en train de tenir cet espace, petit magasin chaussée de Wavre, à côté de Matongé. Et j'ai rencontré d'abord une personnalité et puis des tout petits tableaux, des petites tapisseries. C'était vraiment le tout début. C'est quelqu'un qui a étudié sciences politiques au Collège de l'Europe, qui était lobbyiste européen et qui, à 30 ans, a décidé de tout à fait changer sa vie. Elle a étudié l'histoire de l'art, mais pas la peinture, l'histoire de l'art. Et puis, elle a hésité pendant encore un ou deux ans entre savoir si elle allait s'occuper d'animaux en Afrique. Elle a travaillé dans des endroits pour élever les guépards, ou devenir artiste. Elle a finalement choisi de devenir artiste. Et donc j'ai découvert cette personnalité, et nous avons eu beaucoup de conversations, et j'ai suivi comme ça depuis 5 ans et demi, son parcours, son développement, ses tableaux qui sont tout d'un coup devenus très grands, hyper complexes, qui prennent des mois à être peints, ces objets qu'elle collectionne, à la fois des objets en plastique qu'on peut voir ici dans les vitrines, des choses à 50 centimes et des choses à 50 euros, des objets africains, asiatiques, des crânes, des morceaux de pierre, des objets archéologiques, des corps de jeux d'enfants, et tout ça est dans sa maison accumulée, et ça fait partie de son ambiance. Et là, c'est un atelier rempli de plantes vertes, rempli de tableaux, enfin beaucoup de tableaux en production. Moi, je pense que quand une galerie représente un artiste, c'est aussi un enthousiasme pour un travail et pour une personnalité. Il faut que les deux aillent ensemble.
Qu'est-ce qui vous a attiré en elle, dans sa démarche ?
Tout son univers, en fait, sa technique, sa manière de travailler, de peindre, la précision de ses tableaux, ses femmes nues, chasseresses, cruelles, sadiques, dans un rapport de force, de violence, et puis en même temps tout son univers, ses références à l'histoire de l'art. Enfin, c'est vraiment tout son univers qui m'a attiré. Voilà, je ne sais pas vous dire qu'il y a quelque chose en particulier. C'est vraiment une artiste que je trouve incroyable, et ça a juste été un coup de cœur, vraiment.
Mais ces tableaux qui sont apparemment une sorte de paradis ?
Ou un enfer ? C'est pas parce que les femmes sont nues que c'est spécialement un paradis, puisqu'elles tuent des animaux, elles tuent des hommes, elles chassent. Il y a beaucoup de morceaux d'animaux qui ont été tués, découpés, il y a des offrandes. Les paysages viennent très fort de la tapisserie flamande, et les femmes viennent plutôt de la peinture italienne ou allemande. Elle les remet dans un contexte. Ces femmes n'ont pas de couleur de cheveux, donc ce sont des espèces de femmes internationales comme ça. Elles sont ensemble. C'est vrai que ça pourrait être un paradis, mais ça peut être aussi le début de l'enfer. Et c'est un travail aussi beaucoup là-dessus, sur une espèce de sensualité, une espèce de contrôle, ou une perte de contrôle, une ambiguïté, une violence, une sensualité. Ce travail est très ambigu là-dessus. Et elle ne cherche pas à donner des vraies explications ou des vraies clés. Elle laisse quand même des doutes. Elle choisit avec beaucoup d'attention les titres qu'elle choisit. « De ta salive qui mord » est le titre de l'exposition ici au BPS, qui vient d'un poème de Baudelaire. Comme elle est trilingue ou quadrilingue, donc elle a étudié en anglais, et elle lit aussi en français. Donc il y a beaucoup de titres qui viennent de la poésie, de la chanson, de textes qu'elle écoute. Elle écoute beaucoup, beaucoup aussi d'histoires ou de textes ou de poésie ou de chansons quand elle peint. Et de temps en temps, elle note des phrases qu'il a. Mais ça peut être de la chanson pop, ça peut être Shakespeare, et ça peut être Baudelaire, et ça peut être un texte d'un autre artiste aussi.
Partagez-vous avec elle l'amour qu'elle a à l'égard des animaux ?
Je ne connais pas son rapport aux animaux, mais je sais qu'elle a voulu à un moment donné consacrer peut-être sa vie professionnelle aux animaux. Non, je n'ai pas ce rapport. Mais par contre, sous ces questions de pulsion en fait, primaire animale que nous avons en nous, ça c'est quelque chose qui me questionne beaucoup et depuis longtemps, mais de manière très personnelle dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de femme, c'est quelque chose qui me questionne. Maintenant, vraiment le rapport à l'animal, non, je ne pense pas que je partage ça avec elle.
Cette pulsion, de quoi s'agit-il ?
Des pulsions, des sentiments, des émotions, des réactions qui émergent de nous, qui viennent vraiment de l'intérieur, du ventre, dans des situations d'angoisse, de peur, dans des rapports parfois violents ou liés même à la sexualité, qui sont ouais, quelque chose vraiment qui nous prend à l'intérieur du ventre et qu'on ne sait pas toujours expliquer. C'est quelque chose vraiment que j'ai ressenti très fort par rapport à ces tableaux et qui m'ont tout de suite parlé.
Qui n'aime pas la nature ? Non mais c'est un état merveilleux. C'est...
La question de l'Anthropocène est posée, me semble-t-il, à l'intérieur de ce qui est montré ici au BPS 22.
Dans un rapport peut-être à ce que nous devenons, à l'écologie, je ne crois pas que c'est ce qui intéresse l'artiste, qu'elle parle réellement de ça dans son œuvre. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société et dans le monde, peut-être qu'en effet, quand on voit la cruauté du monde dans lequel on vit, quand on voit certaines réactions de nos hommes politiques, quoi, dans les rapports de force qui se jouent au quotidien, il y a peut-être quelque chose de ça, mais sincèrement, ce n'est pas ce que je vois en premier. Pour moi, il est plutôt éloigné.
Rodolphe Janssen, je pense à ce que vous dites quant aux animaux. Alors, participe-t-elle de la pensée, de la réflexion contemporaine sous le vocable d'anthropocène ?
En tout cas, c'est une question qu'on lui pose souvent. Et je viens de lire les deux questions que lui a posées Nicolas Bourriaud, qui est le curateur de l'exposition de la Biennale de Istanbul, dans laquelle il est invité sur ce sujet. Et je pense que, si elle n'en a pas encore écrit sa réponse, je pense qu'effectivement... C'est une question qu'elle se pose, en tout cas, oui. Et sur laquelle elle va s'approfondir pour pouvoir répondre à cette très longue question d'un curateur français.
Des objets anciens qui appartiennent à la collection personnelle de l'artiste, des facsimilés, donc des œuvres qu'elle reproduit, parfois quasiment à l'identique, d'autres qu'elle réinterprète ou qu'elle imagine, des jouets vintage, un crocodile ou des serpents en plastique, qu'elle mêle parfois même avec des objets anciens. Par exemple, il y a un crocodile qui porte dans sa gueule une main sculptée dans le bois, qui est d'origine égyptienne. Ce sont des objets qu'elle installe dans ses vitrines de manière assez instinctive et viscérale. Elle est venue au montage avec toutes sortes d'objets qui lui appartiennent et qui font partie de sa maison. Il faut voir sa maison, son atelier, en fait, sont composés de ces objets qui l'entourent, avec lesquels elle vit au quotidien. Et elle a fait ça de manière très vite, en fait, vraiment de manière instinctive. Et ça parle avec ses tableaux, ses tapisseries. En fait, parfois, on retrouve ces objets dans ses peintures, parce qu'ils l'ont inspirée. Parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle peint des choses et puis après, elle a envie de les posséder d'une autre manière. Donc, il y a un échange perpétuel et tout ça m'a beaucoup questionnée. La première fois, je l'ai rencontrée et que je suis allée chez elle. Et donc, ça a été tout de suite, en fait, le premier point ou objectif, je ne sais pas comment on dit, ça devait être... L'accroche de cette exposition, le point de départ de cette exposition, ça devait être ces objets. Montrer en fait cet univers qui l'entoure, qui l'inspire et qui font partie d'elle et de ses œuvres. C'est ce qu'on a voulu montrer principalement dans cette exposition.
Et rappelez-moi votre nom.
Sanam Katibi.
Et vous êtes basée ?
À Bruxelles, je suis belge. J'ai eu une éducation très internationale et j'ai vécu dans beaucoup de pays, mais principalement j'ai grandi ici.
Et votre galeriste me dit que vous parlez plusieurs langues.
Oui, je suis anglophone à la base puisque j'ai étudié dans des écoles notamment anglaises. Je parle un peu le perse, un petit peu d'autres langues, mais je dirais pas super bien, mais un peu d'espagnol, voilà.
Et qui dit perse dit Iran ?
Oui. J'ai été née là-bas et j'ai quitté l'Iran quand j'étais très petite. Mais j'ai eu une mère qui était très très internationale, qui avait elle-même grandi au Danemark. On a beaucoup voyagé et voilà.
À l'écomusée de Bois-du-Luc à la Louvière, dans le cadre de la biennale Art Tour, intitulée D'un temps à l'autre, Migration. Jusqu'au 31 octobre. Avec Vanessa Debray. Tiens, souvenez-vous, l'année dernière, je vous interviewais.
Oui.
Et vous avez parlé du futur des sites.
Oui, tout à fait. C'est ça.
Rappelez-moi votre nom.
Vanessa Bebron.
Et en un mot, de quoi vous parliez ?
Dans l'exposition Boel, j'avais mis en avant toute une série d'exemples de redéploiement d'anciennes sites friches industrielles qui allaient aussi bien vers des redéveloppements parfois économiques, technologiques, mais aussi certains sites qui avaient été réappropriés par des habitants pour en faire de nouveaux espaces de vie. Et donc j'avais essayé de faire un panorama assez large du type d'activité possible sur ces friches, avec en question de fond d'envisager ce qu'on pourrait faire sur une friche telle que celle de Boel ici au cœur de la ville de la Louvière. Toujours pas de réponse à cette question.
Flashback, juin 2018, à l'écomusée de Bois-du-Luc à la Louvière. Vanessa Debray. Et rappelez-moi votre nom encore.
Vanessa Bebron. Comme Isabelle vous l'a dit, malheureusement, nous avons cherché à joindre M. Calbo à plusieurs reprises. Malheureusement, sans succès. Je ne sais pas comment la RTBF a fait. Mais il était difficile de ne pas évoquer le travail de Vincent Calbo dans cette thématique. Parce qu'il offre, pour nombre de projets qui sont encore des projets non réalisés, mais il a un travail très, très intéressant. Il aborde vraiment la thématique de l'agriculture urbaine, des espaces bureaux, en conciliant avec des espaces de vie. Et il y a notamment tout ce qui est ferme verticale développée depuis plusieurs années, qui pourrait offrir une réponse concrète à ce besoin de production locale de qualité. Ce qui est très intéressant dans son travail, c'est qu'il est très au fait de tout ce qui est développement technologique, mais aussi développement des techniques comme la permaculture, et qu'il a vraiment une sorte de multicasquette qui lui permet de rebondir et de créer des projets qui se tiennent et qui n'offrent pas une seule réponse, mais une multitude. Et c'est, je pense, pour ça que ces projets sont tellement intéressants, outre l'aspect un peu spectaculaire au niveau graphisme, mais ce sont vraiment des projets qui sont d'une richesse incroyable. On a l'habitude, jusqu'à présent, d'avoir des projets architecturaux qui répondent à un besoin premier et qui font un peu l'impasse sur le reste. Ici, il y a vraiment toutes les thématiques qui se retrouvent à chaque fois dans chaque projet, raison pour laquelle on le retrouve dans différents sous-chapitres de ces textes, parce qu'on pourrait presque le mettre un peu partout, que ce soit au niveau mutualisation des espaces, au niveau agriculture urbaine, au niveau de la fabrication, de la question est-ce que les usines ont encore une place dans nos villes aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut y revenir ? On a eu tendance à les chasser, à les mettre dans les campagnes pour ne plus avoir tout ce qu'ils peuvent avoir de négatif en termes de pollution, en termes de circulation. Et aujourd'hui, on se repose la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas faire revenir ces usines parce que ça permettrait de moins encombrer les routes. Au contraire, la production locale qui connaît un grand développement aujourd'hui, je l'entendais encore ce matin à la radio, ce ne sont que quelques bobos qui s'intéressent à ce genre de questions. Ça devient vraiment aujourd'hui un problème qui nous concerne tous, et donc toutes ces questions sont à chaque fois reprises dans son travail. Je crois que c'est à ce niveau-là, il nous offre de nouvelles perspectives sur lequel il serait certainement intéressant de se pencher. Et son projet Paris 2050 en est de nouveau un bel exemple, avec des projets qui semblent comme ça un peu fous, mais des projets dont nos politiques aujourd'hui s'intéressent fortement, jusqu'à pouvoir imaginer de remettre non pas un bâtiment en œuvre, mais de revoir tout un système.
Qu'appelez-vous ferme verticale ?
Des tours urbaines où on plante de façon verticale, donc en exploitant les étages et la lumière. Et donc on peut vraiment avoir des systèmes de gratte-ciel entièrement végétalisés et non plus simplement des petits murs végétalisés comme on en a vu se multiplier, mais vraiment des murs comestibles où on pourrait planter des arbres fruitiers, des productions céréalières, des productions de maraîchage. Et donc des espaces qui sont conçus vraiment pour permettre une exploitation agricole qui puisse nourrir la population, pas juste du décoratif.
À l'écomusée de Bois-du-Duc à la Louvière, dans le cadre de la biennale Art Tour, intitulée D'un temps à l'autre, Migration, jusqu'au 31 octobre, avec Vanessa Debray.
L'année passée, c'était les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous n'avions pas pu, à ce moment-là, développer une exposition ou des activités pour mettre cette déclaration en avant. Il y avait un petit regret par rapport à ça, donc avec ma directrice, il y a eu une réflexion et on s'est dit, ben voilà, en examinant la Déclaration des droits de l'homme, toute une série de droits ne sont pas respectés aujourd'hui. Et naturellement, vu l'actualité, celle du droit, la liberté de se mouvoir est venue rapidement sur la table. Et nous nous sommes dit que pour la Biennale Art Tour 2019, nous avions envie de développer une exposition sur les causes migratoires et de rechercher des artistes qui abordaient cette question. Partant de migrations anciennes comme l'immigration démographique et d'arriver jusqu'à la question d'aujourd'hui, bon voilà, on fait un petit état de la question. Demain, quelles seront les principales causes de migration ? Est-ce qu'on va continuer à migrer pour les mêmes raisons, pour des raisons économiques, des raisons politiques ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui va arriver ? Et effectivement, malheureusement, vu l'autre actualité, le grand enjeu de demain, ce sont les causes climatiques, avec des chiffres qui sont des prévisions, justement. Donc on ne peut pas tabler de manière précise sur ce qui va arriver, mais les statistiques ne sont pas roses, j'ai envie de dire. Et donc nous abordons la question des migrations demain avec tous les dérèglements climatiques, les inondations, les réchauffements, les désertifications. Et puis un dernier petit focus qui va se faire sur comment pourrait-on envisager d'autres politiques migratoires. Est-ce qu'il est vraiment inconciliable d'allier droit à la migration et j'ai envie de dire simplement humanité. Donc ici, avec cette exposition Migration, on est dans une exposition engagée. C'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Et j'ai eu la liberté de choisir différents artistes avec des médiums totalement différents. Nous avons aussi bien des photographes, des caricaturistes, un artiste parisien qui fait du street art, des projections également. Et donc, j'espère que le public pourra naviguer de l'un à l'autre, et chaque artiste a été choisi parce qu'il a un regard vraiment très particulier sur la question. Au niveau des photographies notamment, j'ai eu la chance que Yanis Berakis, qui est un photojournaliste de chez Reuters, qui est décédé malheureusement au mois de mars, accepte de participer à l'exposition, et lui, il nous offre des photographies qui sont autant de clichés très percutants, sensibles, touchants, de moments de la traversée de ces migrants lorsqu'ils arrivent sur les îles grecques, mais aussi sur les routes entre la Grèce et la Macédoine. Nous avons un autre photographe qui lui est un photographe local, où là la photographie est prise tout à fait autrement. Elle est davantage un prétexte à la discussion. Donc il a commencé son parcours en allant au parc Maximilien pour rencontrer les migrants. Et finalement, son objectif photographique est juste un prétexte pour entamer la discussion. Et donc sur chaque photo qu'il a pu finalement saisir au terme de ses rencontres, à chaque fois il y a une histoire derrière. Le troisième photographe qui a été sélectionné est Yves Salone, qui est un jeune photographe français qui, lui, a parcouru les camps en Europe pendant un an et qui présente toute une série de clichés beaucoup plus intimistes de la vie à l'intérieur d'une tente. Au niveau des caricaturistes, j'ai la chance d'avoir Patrick Chapat qui a accepté de participer, Jaume Capdevila et puis un autre artiste belge qui est Philippe de Cressac. Un clip du dernier album de Grand Corps Malade qui a accepté d'être présent, qui est Au Feu Rouge. Donc il a écrit tout un texte autour de ces personnes que nous croisons dans les rues et de ce qui se cache un peu derrière. Et ce clip, je trouve, est assez touchant et rend un peu un visage à toutes ces personnes qu'on englobe sous un terme très générique de migrants. Dans les autres artistes présents, nous avons Maëlle Dufour, qui a créé deux sculptures, dont l'une monumentale, qui est une tour de guet désarticulée, où le visiteur est invité à monter. Les passages sont étroits, la tour est penchée. Le but est un peu de faire ressentir un sentiment de malaise à cet objet qui, généralement, lui-même en procure un sur les personnes qui sont soumises, j'ai envie de dire, à son autorité. Stéphanie Roland, également, qui est là avec des cartes thermographiques. Et là, de nouveau, on rebondit sur l'actualité, qui est celle des causes climatiques. Elle a reproduit toute une série de cartes avec des îles amenées à disparaître à l'avenir. Et ce sont des cartes qui sont noires. Et avec le contact de la main, avec la chaleur humaine, on voit apparaître le contour de ces îles. Et au revers de la carte, il y a les coordonnées géographiques et le siècle présumé de disparition de ces îles. Un troisième artiste est Eric Zeking, c'est ce fameux artiste street art. Je pense que c'est la première fois qu'il expose ici en Belgique. C'est un tagueur, il travaille avec des pochoirs et il détourne toute une série de grandes marques de consommation occidentale pour en faire des jeux de mots et avec un côté très caustique. Des images très pures, il dénonce les travers de nos sociétés et le décalage nord-sud. Il y a notamment une très belle une pièce qui est une valise qu'il a taguée, qui s'intitule « Dans quel monde vit-on » de la célèbre marque. Et au revers, on a un petit Africain qui est dans un seau tagué au logo de Vuitton. Nous avons également le travail d'un ancien migrant de la jungle de Calais, Ahmedine Khan. C'est une association avec Olivier Guillot et Éric Masquelier. Donc c'est une vidéographie. Vous avez à la fois des images en 360 degrés de la jungle de Calais quelques jours avant son démantèlement et cette vidéo d'Ahmedine en superposition. Et alors, pour essayer de n'oublier personne, nous avons également une projection, c'est une performance dansée par un couple de chorégraphes américains qui sont Keon et Mary Madrid, où on commence avec des images de pays étrangers et qui parlent de cette transhumance et de ce passage à travers les flots.
À vous écouter, je pense à cette exposition qui a eu lieu
à Louvain.
À Louvain. Sous le site de Charlie Keys,
oui.
Intitulé « Bienvenue ». Vous l'avez vu ?
Je l'ai vu. Elle était magnifique. Tout à fait. C'est très différent parce que là, c'était une exposition qui avait été articulée par toute une série d'artistes qui avaient travaillé ensemble. Donc, il y avait des œuvres différentes, mais une certaine homogénéité au niveau esthétique. Ici, ce sont des regards radicalement différents. des artistes qui n'ont aucun lien entre eux, ni par le support, ni par la même façon de rendre les choses. Mais c'est un choix volontaire. J'avais envie de trancher et de sélectionner des artistes qui me touchaient par leur regard sur la question. Beaucoup d'artistes engagés. Enfin, comme à Louvain-la-Neuve d'ailleurs.
Exposition Migraction.
Migraction qui se poursuivra jusqu'au 31 octobre.
Charleroi, BPS 22. Jusqu'au 1er septembre. Migraction, Écomusée Bois du Luc, jusqu'au 31 octobre. Un Charleroi au BPS 22, jusqu'au 1er septembre. Xavier Marie, MX Temple et Sanam Katibi, Extra View de Tassalif qui mord. Avec Pierre-Olivier Rollin, Dorothée Duvivier, Rodolphe Chansen, Xavier Marie, Sanam Katibi. À l'Écomusée de Bois-du-Luc à la Louvière, dans le cadre de la Biennale Art Tour, intitulée D'un temps à l'autre, Migraction jusqu'au 31 octobre, avec Vanessa De Bruyne. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Génicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.